vous ce soir. Je suis d'autant plus content de te recevoir que j'ai eu moi-même le... Donc tu es directeur et fondateur de Mediapart, je le rappelle, et que j'ai eu le plaisir de travailler quelque temps avec vous à Mediapart, 6 mois, et que tes textes et le travail de Mediapart font partie des choses qui ont forgé moi-même ma propre conscience politique. Donc je suis content de pouvoir boucler la boucle un peu ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler de la révolution numérique dans ce cycle consacré à la 6e République. Quel est le rapport entre le numérique et la République ? Il y a plusieurs ordres. Tout d'abord, Internet transforme notre rapport à l'information, au savoir. Internet bouleverse l'économie de la publication dans nos sociétés. Internet redessine le périmètre de l'espace public et donc Internet change les termes de la chose publique, de la res publica. Et cette question est d'autant plus importante qu'on voit qu'elle prend des tournures tout à fait géopolitiques avec l'affaire de la NSA et d'Edward Snowden, etc., dont tu vas nous parler, je pense. Donc je te donne une heure, pour développer ton exposé et pour avoir le temps après d'avoir un échange conséquent avec la salle qui est venue nombreuse ce soir.
Bien, bonsoir à tous et merci de cette invitation. En effet, que au-delà du lieu et du caractère le plus officiel de l'invitation, je devais amicalement à Clément. Clément, en effet, avant d'être Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle sur Twitter, a été Mediapartien et a animé, contribué à l'animation du club participatif de Mediapart. Je vais essayer de faire un exposé de, comme j'ai compris que c'était un cycle un peu de, au fond de discussion, de réflexion. Je ne vais pas faire un exposé classique. Je vais essayer de poser une réflexion qui est derrière ce que vous voyez, c'est-à-dire un journal, la démarche d'une équipe et évidemment un itinéraire personnel. Derrière cette réflexion, je voudrais dire en introduction qu'il y a à la fois l'idée que la politique ne se ramène pas aux partis politiques, que la politique est un bien commun et que la politique nous requiert, où que nous soyons, dans notre travail et dans les responsabilités que nous prenons là où nous sommes. Deuxièmement, je voudrais dire en introduction que derrière ce que je dirais, je ne vous parlerai pas de Mediapart, je ne vous parlerai pas de moi, je ne vous parlerai pas de Mediapart, je ne vous parlerai pas de moi, mais derrière ce que je dirais, il y a évidemment cette idée que il faut donner au journalisme les moyens de se battre. Et une réflexion sur les conditions qui permettent aux journalistes de se battre et d'affronter les défis qui sont les leurs dans un moment d'immense bouleversement où, pour la plupart, ils ont dans les entreprises d'information le dos au mur. Enfin, je voudrais dire que nous vivons des temps de transition à tout point de vue et que dans ces temps de transition, ceux qui inventeront le futur, futur politique, mais aussi des inventions artistiques, des inventions économiques, des inventions culturelles, sont ceux, comme en tout temps de transition, qui seront alliés le meilleur de la tradition et les audaces de la modernité. Pour comprendre ce que je veux dire, je prendrai au fond ce qui est dans les musées aujourd'hui, quand on va dans des expositions et que l'on regarde ce qui fut le mouvement surréaliste, dans cette période terrible qui fut celle de la catastrophe européenne et des 30 ans de la double guerre mondiale, des crimes contre l'humanité, d'une destruction. Et l'on voit bien dans l'itinéraire du mouvement surréaliste et de ceux au sens large, puisque Picasso n'en était pas, mais on pourrait le lier à tout cet ébranlement de l'art par cet art moderne, eh bien, on a vu comment ils ont su à la fois être dans une audace totale, brisant les codes, inventant et qu'en fait, il le faisait en même temps avec une haute idée de la tradition, du meilleur de la tradition.
Je vous prends un exemple, c'est les collages. Quand on voit une exposition Braque qui vient de s'ouvrir, quand on voit ces collages chez Picasso, bah aujourd'hui on voit que derrière des tableaux de Ingres, il y avait des collages. On voit comment ils ont relu la tradition.
Je pense que nous sommes en politique, pris au sens large, puisque la politique est un bien commun, dans ce même moment. Comment défendre le meilleur de la tradition au cœur de la modernité? Comment ne pas nous mettre sur un aventin face à une modernité qui nous ferait peur, face à laquelle nous devrions nous barricader, pensant que tout est foutu, que tout est régressé, que tout est destruction? Ou à l'inverse, aller au fil de l'eau d'une modernité qui en soi serait libératrice, sans y défendre quelques principes? Donc, voilà la politique comme bien commun, le journalisme, comment se battre, et l'alliance entre tradition et modernité. J'exposerai cela en deux points, conformément au fond à l'intitulé de cette réflexion collective ce soir. D'abord, qu'est-ce que j'entends par révolution numérique? Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire par révolution démocratique? Et je conclurai évidemment par rapport à des enjeux liés à votre cycle, la réflexion sur une 6e République et sur une refondation de la République. Sachant qu'il faut s'entendre déjà sur ce mot de République au départ. La République n'est pas une fixité, n'est pas une immobilité, n'est pas une donnée, n'est pas un héritage. La République, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est une création permanente, toujours inachevée, toujours à inventer. Quand j'entends dire, par rapport à des polémiques récentes, « Mais comment pouvez-vous contester tel ministre de l'Intérieur? C'est un républicain. » Alors qu'il ébranle quoi? Il ébranle ce que la République a inscrit en 1944-1945 au cœur du préambule de notre Constitution. Mais il a fallu un siècle pour qu'elle l'inscrive. Et il a fallu quelques montagnes de cadavres. La République ne fait pas de distinction selon l'origine, la race et la religion. Et il est évident que quand on essentialise une partie de ceux qui vivent dans ce pays au nom de l'origine, on brise cette constitution, on viole les principes, on est un délinquant constitutionnel, comme le fut Sarkozy et comme l'est Manuel Valls en disant cela. Mais le rappel qui m'importe, c'est qu'il n'a pas été donné que la République fut déclarée démocratique et sociale dès l'origine. En 1848, il y avait des affiches, la République démocratique et sociale. Mais ça ne fut pas au fronton de la Deuxième République qui a réprimé les ouvriers, ça ne fut pas au fronton de la Troisième République, et qui fut une incessante bataille pour inventer la République. Et il a fallu, encore une fois, la catastrophe européenne pour que, dans notre Constitution, alors que nous savons qu'elle l'est insuffisamment, c'est le moins qu'on puisse dire, il soit inscrit que la République est démocratique et sociale. Donc la République, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Il n'y a pas des gardiens du temple. La République nous retire comme un mouvement, comme un chemin qu'on doit construire. Et c'est le sens de ce que je veux expliquer en parlant d'une réalité, la révolution numérique, et de ce qu'elle requiert comme révolution démocratique. J'en viens donc à mon premier point, la révolution numérique. Derrière ce mot « révolution », il y a ce que les historiens ont appelé, au fond, les révolutions industrielles. C'est un mot pour essayer de faire comprendre une réalité de notre modernité, de notre âge moderne, c'est-à-dire celui qui commence avec le XVIIIe siècle, où s'accélère le rapport au temps et à l'espace. On a toujours dit que les armées de Napoléon, au début, elles ne vont pas plus vite que les armées de Jules César. Ce qui caractérise notre âge moderne, depuis plus de deux siècles, c'est cette accélération du rapport au temps et à l'espace. Un temps qui va plus vite et un espace qui est plus restreint. On peut définir trois révolutions industrielles. À chaque fois, une invention technologique, une invention industrielle qui se diffuse, et un ébranlement progressif de l'économie, de la société, de la culture, des rapports entre nations, des nations qui se saisissent de cette révolution industrielle et qui deviennent plus puissantes que d'autres, d'autres qui déclinent, le travail et le capital qui s'affrontent, des richesses nouvelles qui se créent, d'autres qui sont détruites. C'est ça une révolution industrielle. Et l'issue n'en est jamais donnée. Première révolution industrielle, moteur technologique, la machine à vapeur. fin 18e, début 19e. Cela correspond à le début du mouvement des campagnes vers les villes, de la construction de l'armée de réserve industrielle, les ateliers, les canuts qui se révoltent parce qu'on détruit leurs vieilles machines, et puis du coup la question sociale qui surgit, et puis le prolétariat, le socialisme, ces idéaux-là, tout cela va ensemble. Ce mouvement qui va de la fin du 18e, des idéaux démocratiques, des révolutions démocratiques, au surgissement de la question sociale. Et au départ, le chemin de fer, on pourrait dire que, quand je dis la machine à vapeur, que la vitrine de cette révolution industrielle, c'est le chemin de fer, qui sert aussi bien à déplacer les hommes que les armées, et à circuler, à ne plus être dans la fixité, dans l'immobilité des communautés paysannes. Deuxième révolution industrielle, fin 19e, début 20e, moteur technologique, l'électricité, basculement de l'Europe aux États-Unis, invention américaine. Du coup, début bientôt du siècle américain, invention d'une autre organisation du travail. On parlera du Fordisme, Henry Ford, la voiture, l'automobile, on a dit la machine à vapeur, et le chemin de fer, l'électricité, eh bien l'automobile, la voiture personnelle, le déplacement, mais aussi cette division du travail. Et puis, ce basculement géopolitique du monde. Mais aussi, du coup, ça correspond à l'âge de l'accélération du partage du monde, la projection coloniale de l'Europe. Et en même temps, ça correspond à un nouvel âge démocratique, les conquêtes par les lois de la Troisième République. Et puis en même temps, cela correspond à ce qui précipitera la vieille Europe dans la catastrophe. Troisième révolution industrielle, pareillement, fin 20e, début 21e. Pareillement, à cheval sur deux siècles. Moteur technologique, tout ça prend du temps à se diffuser. Eh bien, le numérique, le digital. Ça commence avec des gros ordinateurs, ça commence à cheval entre les recherches militaires et puis la société en Californie. Et puis aujourd'hui, ça donne ces objets nomades, ces objets que vous avez tous, cette circulation de l'image, de la parole, etc. Et ça permet... toujours rapport au temps et à l'espace, vitrine, le numérique, Internet, eh bien, de communiquer en temps réel. Et pareillement, bouleversement géopolitique, crise d'un vieux monde, destruction de richesses, création d'autres richesses, le débat sur les délocalisations, tout ça rend compte. C'est-à-dire que derrière ce que nous traduisons en termes d'enjeux politiques, il y a des réalités matérielles qui sont au cœur non pas seulement du capitalisme, de sa marche, mais de l'ensemble du bouleversement de nos sociétés. Si je rappelle ça, c'est concernant l'information, c'est que ces trois révolutions correspondent à trois temps. On pourrait dire que la première révolution industrielle, dans l'âge démocratique, correspond à l'invention du journalisme d'opinion, la liberté d'expression, le publiciste, la défense du pluralisme des opinions. On pourrait dire que la deuxième révolution industrielle, pour des raisons très concrètes, elle correspond au moment où on va finir par alphabétiser. Toute la France, au XIXe siècle, n'est pas alphabétisée, ne sait pas lire et écrire. Donc en même temps qu'il y a la loi de 1881, fondatrice de la liberté de la presse dans notre pays, il y a les lois scolaires. Sachez, lire, écrire, compter, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grâce à l'électricité, qui correspond aussi aux États-Unis à l'invention de la rotative, émergence de la presse de masse. Avant, la presse, c'était une presse de gens privilégiés, de gens qui n'étaient pas forcément journalistes, qui pouvaient faire de la politique, de la littérature. Et là, la presse de masse, ben, c'est la presse à un sou, c'est la presse à un franc, c'est la presse qu'on lit, c'est la presse, c'est dans le journal, c'est le début d'un espace public démocratique. Et du coup, émergence d'une nouvelle figure du journalisme, non plus le journalisme d'opinion, mais le journalisme d'information, celui qui apporte des faits, celui qui va être reporter, celui qui va vous raconter ce que vous ne savez pas. Et puis on pourrait dire aujourd'hui, nous en sommes au linéament, avec cette nouvelle révolution industrielle dont la vitrine est Internet, mais Internet, au cœur de son moteur technologique, vous avez ce qu'on appelle le lien hypertexte. C'est ce qui permet de faire des mails, c'est ce qui permet de joindre des documents, c'est ce qui permet d'aller voir une source, c'est ce qui permet de se promener dans cette forêt vierge. Et on pourrait dire, invention, j'y reviendrai, du journalisme de relation, du journaliste qui met en relation. qui à la fois fait de l'opinion, qui à la fois fait de l'information, mais qui met en relation, des contenus, qui met en relation des gens. Pourquoi je pars de là, je pars de si loin? Parce que je crois qu'il faut qu'on ait conscience de, profondément, de manière rationnelle, hein, de ce qui nous ébranle. Et il faut qu'on en ait conscience en se disant que la technique, la technologie n'est jamais libératrice en soi. Chemin de fer, déplacer les hommes, découvrir des pays, ne plus être condamné à être emprisonné dans une fixité et un déterminisme d'une communauté, mais aussi déplacer des canons, déplacer des armées, envahir d'autres pays. La deuxième révolution industrielle, ben, c'est celle qui finira par inventer les armes de destruction massive. Donc nous savons qu'il y a dans ce moment-là des progrès et des regrets, qu'aucun monument de culture n'est forcément totalement de culture, qu'il y a aussi la barbarie, elle peut être là. Que dans la technologie, il y a toujours ce côté, cette double face. Et donc c'est une bataille politique. Quel va être l'usage de la technologie ? Et c'est évidemment ce que montrent les révélations récentes. Mais les révélations récentes, elles ont été annoncées par le livre de Julian Assange, fait avec des Français, ceux de La Quadrature du Net, qui est paru en français en début d'année, avant les révélations de Snowden. Et qui disait, lui, Julian Assange, venu du, comme les activistes, avec un H, hein, les activistes du Net, et lui qui a défendu la dimension libératrice d'Internet, dans une stratégie du faible au fort, cette dimension de diffusion horizontale de l'information, bombarder d'informations des puissances, les mettre à nu, et du coup les dévoiler. Et en même temps, son cri d'alarme était de dire, eh bien cet Internet qui pouvait nous libérer est aujourd'hui devenu une très grande menace. Car c'est une menace, ils peuvent totalement nous contrôler, nous surveiller. Nous sommes, pareil, dans cet aspect bifronce, une possibilité démocratique immense et en même temps une menace dangereuse. Donc c'est une bataille. C'est une bataille entre nous, les citoyens, l'usage que nous en ferons, les lois que nous obtiendrons, les revendications que nous promouverons au cœur de la puissance publique et de l'autre côté, à la fois les États et les marchands qui ont leurs propres intérêts dans ce moment-là. Dans ce moment, pour cette image de révolution industrielle, par rapport au secteur dont je parle, la presse, partir de si loin permet de mieux comprendre. Dans beaucoup de débats au sein des métiers de l'information, on a l'impression de gens qui sont comme des lapins pris dans les phares, qui du coup tournent derrière les techniques, derrière la modernité, les modèles sans essayer de penser la situation. Mais si on part de si loin, on peut mieux la comprendre. Oui, oui, une certaine presse est condamnée. Oui, elle est condamnée. Quand vous avez une invention technologique qui supprime trois coûts, le papier, et c'est écologique, l'impression, et c'est une industrie lourde, la distribution, et c'est un poteau noir avec les invendus, elle a forcément l'avenir derrière elle. Quand vous achetez un journal, quel qu'il soit, entre près de deux tiers de ce que vous payez, ce sont ces trois coûts. Et vous avez une invention technologique qui les supprime. Cela prendra du temps, il y aura d'autres modalités, il y aura... Mais la destruction est inévitable. La crise du modèle économique, commercial, éditorial, de l'objet quotidien imprimé papier est inévitable. Quand vous avez, qui plus est, une révolution technologique qui met le lien au cœur de sa production, qui n'a pas de contrainte de longueur, qui permet, j'y reviendrai, c'est le cœur de l'enjeu démocratique, au lecteur de participer, d'interpeller, de critiquer, de prolonger, l'objet journal, qui est un objet clos, un objet limité, il est là aussi en péril. Alors, ça ne veut pas dire du tout, aucun média ne tue le précédent. La fin du papier, au sens du livre, la fin de la lecture linéaire, qui existe évidemment toujours, elle existait déjà avec le papyrus, parce qu'elle correspond à l'esprit humain. Mais je parle bien au cœur de la vie démocratique, le journal. La démocratie, ce n'est pas tous les trimestres, ce n'est pas tous les mois, c'est tous les jours. Et le journal, c'est des agendas de la démocratie. C'est pour ça que le pluralisme est essentiel. Et il est clair qu'aujourd'hui, pour moi, le point de non-retour, c'est que cet enjeu, là, se jouera là-dessus. Il y aura, selon les modèles, peut-être des déclinaisons de papier. Mais, fondamentalement, cette vieille presse, comme je dis, au sens, ce n'est pas péjoratif, au sens d'un âge de la presse dont je fus, elle est condamnée en termes de presse quotidienne. Et donc, les autres modèles doivent s'inventer autrement, et c'est le sens, ce sera ma seule allusion, on pourra en débattre tout à l'heure, du laboratoire que veut être Mediapart par rapport à cela. Mais, en même temps que je dis ça, vous voyez bien que dans ce moment-là, quand je dis que c'est une bataille, ben, c'est une crise. Ben, cette crise, vous la voyez, la bataille, la propriété des journaux. Ah oui, monsieur Jeff Bezos, Amazon rachète le Washington Post. Il ne sait pas faire des journaux et son métier n'est pas de l'information. Mais il achète de l'influence, comme monsieur Niel et d'autres qui ont racheté Le Monde. La propriété de ces médias par d'autres géants du net qui viennent du numérique est en jeu. La crise se joue aussi en termes de droit de la presse. Regardez les décisions contre lesquelles se bat Mediapart. Quand on était journaliste avant, dans la presse papier, on publie un document confidentiel. Et le droit de la presse, de notre jurisprudence républicaine, dit « ce document confidentiel, on vous poursuit dans le cadre du droit de la presse. » Et vous montrez que c'était légitime de le publier. On appelle ça l'intérêt public, la légitimité du but poursuivi. Vous montrez que vous avez prouvé la vérité de l'information, ça c'est l'exception de vérité en droit, ou bien vous prouvez ce qu'on appelait votre bonne foi. Vous dites, regardez, c'était légitime, mon enquête est sérieuse, j'ai respecté le contradictoire. Bah, c'est du papier. Aujourd'hui, il y a du son, oui. Et il y a de l'image, oui. Et là, on est devant des décisions de justice qui disent, le son en soi, c'est interdit. Hors de tout contexte. C'est ça la décision Bettencourt contre Mediapart, et c'est celle-là que veut utiliser M. Dassault. Une décision qui dit, si vous enregistrez quelqu'un à son insu, avec ces machines-là, et que vous diffusez ce son, c'est en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors qu'avant, on disait non, il y a un droit fondamental, qui est le droit d'information, et il peut parfois être supérieur à d'autres droits. Le secret des affaires, le secret de la défense, et voire l'intimité de la vie privée, si vous révélez en fait des délits, et non pas l'intimité de quelqu'un. Et donc, on est au cœur de cela, où on nous oppose par rapport à une crispation sur le danger d'une démocratisation de l'information, d'une démocratisation de ses moyens. Donc vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Comme j'ai dit, de la même manière que vous voyez des nouvelles puissances économiques essayer, à l'occasion de la faiblesse de la vieille presse, de rentrer dans le jeu, de devenir des acteurs de l'information, au risque des conflits d'intérêts que vous connaissez tous sur les médias, que je n'ai pas besoin de vous détailler sur la France. Mais vous voyez de la même manière comment le vieux droit démocratique, républicain, sur la liberté de l'information, peut régresser. Aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de nouveau droit, c'est que c'est l'ancien droit qui est mis en cause. Comme on pourrait le dire sur la démocratie américaine, ce qui s'est joué sur le soldat Manning, sur Edward Snowden, sur la persécution de Glenn Greenwald, des gens dont je vais reparler, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une régression de la culture de la démocratie américaine elle-même. Le pays du Freedom of Information Act, du First Amendment, du free speech, de ce droit fondamental à l'information, et qui, de ce point de vue, l'a défendu très souvent comme un élément du conflit démocratique et comme un élément nécessaire. Donc voilà mes deux points. Cette chronologie, ces révolutions industrielles qu'il faut voir comme une des clés de nos bouleversements et qui appellent toujours des nouveaux âges démocratiques et qui sont au cœur de la clé. Ce n'est pas une fatalité ce que nous vivons, c'est ça que je veux vous dire. Ce n'est pas des méchants qui veulent nous persécuter. Il y a un vrai bouleversement. Et là-dedans, il y a des méchants. Mais cette fatalité, elle nous ouvre des possibilités. Et c'est là la bataille. Et comme ça a été le cas pour les idéaux progressistes à chaque moment de ces révolutions industrielles. Et dans ce moment-là, évidemment, une bataille profonde sur l'usage social qu'on en fait. Mais il y a quelque chose de plus. Je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans, 6 ans, au début de cette conversion au numérique. Mais maintenant, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a une dimension nouvelle, une dimension plus essentielle. Je pense que le numérique, culturellement, est une révolution de la même ampleur que l'invention de l'imprimerie. Et je pense que de ce point de vue, en dehors des comparaisons que je viens faire, notre âge correspond plutôt, en résonance, à ce qui s'est passé au XVe et au XVIe siècle. En clair, l'époque de la Renaissance, l'époque des grandes découvertes, l'époque du décentrement du monde de la Méditerranée à l'Atlantique, l'époque du surgissement de la question de l'autre avec la découverte des sauvages, nus, féroces et anthropophages, l'époque évidemment de ce grand moment de basculement qui est à la fois celui où vont naître les idéaux des Lumières, où Montaigne va écrire les essais dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il meurt 100 ans après le départ de Christophe Colomb pour inventer l'Amérique en cherchant l'Orient, et en fait inventer l'Occident en tournant le dos à l'Orient. C'est un moment très semblable, moment d'immenses découvertes, d'immenses bouleversements intellectuels, et en même temps de fermeture, d'ouverture. Colomb s'en va, c'est le moment de l'expulsion des Juifs. Ça va être à la fois l'étonnement, la découverte des questions qui vont nous faire basculer dans l'humanisme, et en même temps le moment de la limpieza des sangres dans le colonialisme espagnol, de la pureté de sang. Ça va être le moment de la persécution des morisques, les musulmans. Tout cela va être le moment. Ça va être le moment de la guerre, des guerres de religion chez nous. Quand Montaigne, qui écrit avec auprès de lui quelqu'un qui était dans un des petites expériences françaises, c'était dans la baie de Rio de Janeiro, au Brésil, et qui était son intendant. Et il y avait des Americanas dans sa tour quand il écrit. Et quand il écrit ce fameux passage sur les cannibales, hein, où il dit qu'est-ce qui est le plus féroce, il faut toujours relire quand on entend dire « Ah, les vilains barbares là-bas, etc. Hein, » il dit « Qu'est-ce qui est le plus féroce ? Manger de l'homme mort ?» que l'on a boucané dans le cadre d'un rituel pour s'approprier sa force parce que c'est son ennemi, ou écartelé de l'homme vif comme on le fait chez nous. Qu'est-ce qui est le plus cruel? Et là, il dit, chacun trouve barbare ce qui n'est pas de son usage. Donc, nous sommes dans quelque chose, dans un moment qui, pour moi, en écho, me fait penser à cela, et je l'ai écrit un an après 2001 dans la découverte du monde. Pourquoi je vous fais ce grand rappel? Parce qu'au départ, au milieu du XVe siècle, il y a une invention, c'est l'imprimerie. Et là, je voudrais vous citer, juste, je ne vais pas abuser des citations, une découverte récente que j'ai faite. Moment de la découverte de l'imprimerie. Je ne l'ai pas amené, je pense. Je croyais qu'elle était sur ce cahier-là, je suis désolé. Je suis en train de découvrir qu'elle n'est pas sur ce cahier-là. Non, écoutez, je suis désolé, c'était sur un autre cahier. Alors, je vais vous la citer de mémoire. C'est un moine qui écrit dans un texte, donc deuxième moitié du XVe siècle, et en termes très choisis, et il dit, mais au fond, il y a une catastrophe qui est à venir. Et il ne se trompe pas, il y aura la contre-réforme, il y aura les idées des Lumières. Et il dit, la catastrophe, c'est que jusque-là, nous étions propriétaires du savoir. Nous tenions sa langue, le latin, nous tenions les manuscrits avec les enluminures dans nos monastères, et là désormais, ils vont vouloir avoir tous accès au savoir. Eh bien, je pense que le numérique est une révolution de la même ampleur, dont nous ne voyons pas encore toutes les conséquences pour l'éducation, pour la circulation des savoirs, pour leur démocratisation, pour la circulation des informations sur le présent. Le numérique, potentiellement, c'est pas seulement l'idée de l'accès au savoir, c'est désormais la démocratisation de la production des savoirs. C'est l'ébranlement des sachants. C'est cette idée que derrière le mot « expert », il n'y a pas que la traduction qu'on en donne, les sachants qui d'en haut vont nous dire ce qu'il en est. Il y a derrière le mot « expérience ». Et que nous sommes ouvriers, employés, mais nous avons des savoirs et des connaissances à faire partager. Nous sommes des cadres, nous sommes des travailleurs, nous avons des savoirs. Et nous vieillissons et nous vivons plus longtemps, eh bien, nous avons la possibilité de faire partager des savoirs. que le savoir n'est plus dans cette relation verticale avec ses propriétaires et ses autorités. C'est un ébranlement immense. Et c'est un ébranlement qui pose plein de questions que vous retrouverez anecdotiquement dans ceux qui disent « Mais sur Twitter, il y a plein de choses, il y a des appels au meurtre, mais sur les blogs, ils disent n'importe quoi. » Cette crispation face au n'importe quoi qui s'exprime. Mais derrière ce n'importe quoi, il y a aussi plein de pépites. Il y a ce désordre de l'expression qui sort de la production des savoirs. Et là, c'est un événement décisif. Et d'une certaine manière, ce que a mis en scène l'événement Wikileaks, les suites, Cablegate, toutes ces informations jusqu'au dernier épisode Snowden, vous voyez comment, là aussi, c'est un ébranlement des professionnels de l'information. Monsieur Manning, jeune soldat, ne rendra jamais assez hommage au courage. Vous vous rendez compte, vous avez 21 ans, 22 ans, vous êtes perdu sur une base en Irak. Et il a cette audace d'un engagement solitaire formidable. Qu'aurait été-il dans l'ancien monde de l'information? Il aurait été une source protégé par le secret des sources. Il aurait appelé un journaliste, et c'est le journaliste qui l'aurait protégé, comme Donald Herzberg, au moment des Pentagon Papers sur la guerre du Vietnam, qui a affilé près de 5000 pages de documents du Pentagone, était une source du New York Times, et a été défendu comme tel. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il est de ce nouveau monde, et il va contacter par des réseaux cette ONG atypique, Wikileaks. Et il va se faire trahir par un ancien hacker qui collaborait à Wired et qui va se retourner au profit du FBI. Mais il est dans ce monde. Et donc, du coup, il contacte ce monde-là, pas un journaliste. C'est ça qui fait la naissance véritable de Wikileaks, c'est ces informations-là, avec la première information qui est cette vidéo, Collateral Murder, sur un crime de l'armée américaine en Irak, où on entend tout, on voit les images, on entend le son et on voit comment des Irakiens sont canardés par un hélicoptère Apache alors que ce qui était pris pour des armes, c'était des caméras car il y avait deux collaborateurs de l'agence Reuters. Aucun des militaires qui a participé à ce crime n'a été poursuivi, n'a été condamné. C'est la première révélation de Manning. Pour ça que j'insiste sur son courage. Et pareil, Snowden. Il est jeune analyste de la CIA dans ce monde tentaculaire de la National Security Agency où le numérique est pris comme un instrument non le terrorisme et le cheval de Troie, c'est un alibi. L'utilité, c'est l'espionnage économique, c'est ça la clé. Surveiller la population, certes, mais c'est surtout, et c'est la clé de la faiblesse de nos gouvernants, c'est que le cœur des révélations de Snowden, c'est que s'il y a 15% pour le terrorisme, le reste, c'est espionner les alliés dans la guerre de puissance. Car le monde est ébranlé. Oui, il y a le Brésil. Et d'ailleurs, lui, le Brésil, il proteste. Lui, il va aux Nations Unies. Lui, il mène la guerre. Parce que c'est lui qui est visé. C'est l'enjeu économique. Et il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a ces nouveaux acteurs. Et du coup, on espionne les alliés. Et on espionne les alliés économiquement. Et on espionne la France, oui. Et on espionne l'Allemagne. Et on espionne le premier rival, qui est l'Union européenne. C'est ça la clé des révélations. Et c'est ça qu'ils essayent d'étouffer. La clé des révélations, c'est de montrer que les États-Unis espionnent leurs alliés dans une compétition économique. Et donc Snowden, il a ces infos. Qui va-t-il contacter? Non pas un journaliste. Il va contacter qui? Glenn Greenwald. Qui est Glenn Greenwald? Glenn Greenwald, c'est un avocat. Un avocat qui était un avocat du monde des affaires. Un libéral. Mais aux deux sens du terme, un libéral économique, mais aussi un libéral politique, qui a été choqué par la régression du droit que signifie le Patriot Act, voté à une voix seulement contre sous le choc du 11 septembre 2001. Et du coup, il contacte cet avocat qui, sous ce choc juridique, a quitté le monde des affaires pour devenir un blogueur. Et du coup, les grands médias l'ont repéré, d'abord le New York Times et puis maintenant le Guardian. Et donc, il contacte ce militant. Ce militant isolé, comme c'est des aventures personnelles, où ils inventent, d'une certaine manière, les batailles d'une autre manière. Et derrière Greenwald, il y a qui? Il y a une femme qui s'appelle Poitras, j'ai oublié son prénom, qui vit à Berlin, qui est une documentariste. Et simplement, elle a été en Irak, et elle a vu tout ce qui se passait, et du coup, elle est rentrée dans une logique militante avec ses nouvelles armes. Et donc, vous voyez un nouveau monde, quand on parle des lanceurs d'alerte, On parle de ce nouveau monde où le citoyen devient acteur de l'information. Et il ne sait plus seulement les professionnels. Où il y a une nouvelle alliance. Et c'est ce qui se joue aussi dans le fait que les enseignants se disent « Comment je fais avec une classe qui peut aller sur Google et aller sur Wikipédia et aller chercher ?» Et oui, ce monde-là existe. La classe n'est pas enfermée par rapport à ce monde-là. Et ils peuvent trouver leurs informations et comment vont-ils faire leur chemin ? Et ils peuvent vérifier, recouper, discuter, contredire et aussi produire leur propre récit. C'est là où j'en viens à la deuxième partie. J'ai fait ce paysage à grands traits pour montrer comment il est une occasion formidable pour mettre au cœur de la bataille la question démocratique. Je l'ai dit souvent, pour moi la question démocratique est la clé de la question sociale. Elles sont indissociables. Et je pense qu'une des grand chagrin de la gauche au XXe siècle, c'est la dissociation de l'une et de l'autre. Je suis d'une histoire personnelle, intellectuelle, d'un chemin personnel, politique, professionnel, qui lie profondément ça. L'exigence sociale est totalement imbriquée à l'exigence démocratique. Pourquoi ? Entendons-nous par qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce qu'on entend par la démocratie ? C'est donc mon deuxième point. La démocratie, je l'explique en détail, voilà, dans ce livre qui est sorti cette année, Le droit de savoir, la démocratie, je m'appuie sur des auteurs que pour certains vous connaissez, Jacques Rancière, Cornelius Castoriadis, la démocratie comme idéal, comme horizon, comme bataille permanente, comme inachèvement permanent, comme toute révolution sera toujours permanente, c'est le régime de n'importe qui. C'est ça le scandale démocratique. C'est ça la provocation pour la pensée de la démocratie. Sans privilège de naissance, sans privilège de fortune, sans privilège d'origine, sans privilège de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de protester, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de voter. Et au scandale, j'ai même le droit de me présenter, d'être élu, et voire de gouverner, sans privilège. Dans l'accélération révolutionnaire de 1789, création de l'Assemblée au printemps, le peuple rejoint en prenant la Bastille, et ça donne l'accélération, et le vrai moment, serment du Jean de Paume, Assemblée, 14 juillet, Bastille, et hop, la nuit du 4 août, ce moment fou, l'abolition des privilèges. Quelle rupture ! Une société immobile. Immobile où on est fixé par la naissance. Et vous voyez bien comment c'est une provocation qui va au-delà. Certes, nous ne sommes plus dans des sociétés de caste, mais cette question est un enjeu démocratique tout le temps. C'est quoi l'ascenseur social ? C'est quoi pouvoir bouger ? C'est quoi pouvoir accès à des diplômes ? C'est quoi pouvoir se passer d'un pays à l'autre ? C'est quoi pouvoir se déplacer ? C'est le propre de l'homme. C'est ça, notre liberté démocratique essentielle. Donc, cette idée du n'importe qui, elle est au cœur de l'idéal démocratique. Et elle sera toujours un scandale, confronté toujours à la renaissance de nouvelles oligarchies. Nous aurons toujours des oligarchies à combattre. Et des oligarchies cyniques, nous les connaissons d'aujourd'hui, qui ont peur. Les oligarchies du pouvoir et de l'avoir. Du pouvoir politique et de l'avoir économique. Mais il y aura même des oligarchies qui se croient désintéressées. J'ai la naissance, j'ai donc les réseaux, je sais mieux que le peuple ce qui est bien pour lui, je saurai mieux faire. J'ai la fortune, j'ai les moyens, je serai plus efficace. Ah, j'ai les diplômes, je suis plus sachant que vous, écoutez-moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour, sur tel ou tel sujet. Et je n'ai pas envie d'en débattre, mon savoir est à lui seul, ma compétence, et vous ne l'avez pas, et vous ne pouvez pas discuter avec moi, vous n'êtes pas de mon niveau. Cette provocation-là, elle existera toujours, mais nous connaissons assez notre histoire pour savoir qu'elle est au cœur même de l'histoire dont nous sommes comptables. Car il y a aussi des oligarchies nées de l'idéalisation des avant-gardes. c'est compliqué de renverser le vieux monde. Donc oui, il faut des avant-gardes qui s'y préparent. Mais ces avant-gardes, à un moment, elles pensent qu'elles savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et ça donne, oui, la révolution russe, à un moment, née d'une dynamique, est une dynamique du n'importe qui. C'est quoi les soviets? C'est quoi la délibération démocratique des soviets? C'est quoi Trotsky, élu président du soviet de Petrograd en 1905? C'est ça. Et puis tout d'un coup, à un moment, sous les pressions de circonstances qu'on voit bien, eh ben, à un moment, hop, on s'éloigne de ce n'importe qui. Et du coup, on bascule dans autre chose qui va créer les bureaucraties et les autres inégalités qu'on connaît. On pourrait dire la même chose. Le comité de salut public est une dictature d'assemblée qui vient de cette dynamique révolutionnaire. Mais à un moment, il s'éloigne de ses propres promesses, celles parce que la guerre, parce que ceci, de ses propres promesses qui étaient inscrites dans la Constitution de 1793, de l'an 1 de la République et de la formidable Déclaration des droits de l'homme de l'époque. Cette question du n'importe qui est la question la plus difficile, mais la plus essentielle, et qui est en jeu aujourd'hui dans ce moment de crispation des oligarchies. Des oligarchies qui se crispent en faisant régresser la question démocratique, en basculant dans des logiques d'état d'exception. C'est bien ce que l'on voit à l'œuvre dans toutes les batailles que nous avons à mener aujourd'hui. Alors si on dit que la démocratie, c'est le régime de n'importe qui, en découle une question essentielle qui ne vous réconciliera pas avec les journalistes, et vous avez toutes les raisons, comme tous les journalistes eux-mêmes ont plein de raisons d'être critiques sur les journalistes, mais qui vous réconciliera avec le fait qu'il faut se battre pour que les journalistes soient meilleurs. Parce que si c'est le n'importe qui, ben comment je vais exercer mon pouvoir du n'importe qui? Moi qui ne suis pas bien né, moi qui n'ai pas la fortune, moi qui n'ai pas les diplômes. Eh bien, il faut que je sache. Si je ne suis pas informé, comment je peux être libre et autonome dans mes choix? Cette question devient essentielle. Il faut que j'ai l'instrument du savoir sur le présent. Il faut qu'il se diffuse, il faut que je puisse le partager. Ou autrement, je vais être pris dans l'idéologie, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la passion. Les autres vont savoir, les autres auront les informations, et moi, je serai dépouillé de ce levier essentiel. Cette phrase exceptionnelle que prononce Bailly, il sera guillotiné parce qu'il passera à la droite de la Révolution à un moment, Bailly, qui était le premier président du tiers-état et qui fut le premier maire de Paris. Il y a une phrase à l'été 89, mais qui est d'une modernité formidable. « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est public doit être public. Ça doit se faire sous le regard du public. On doit savoir ce qu'il y a dans les livres, ce qu'il y a dans les textes, ce qu'il y a dans les votes, ce qu'il y a dans les résolutions. On doit savoir. C'est pour ça que la Révolution française est souvent qualifiée de révolution du journal. On diffuse, et on diffuse. C'est comme les blogs, parce qu'il y avait les nouvelles à la main. Hein, imprimer, ça coûte cher, parfois. Donc il y avait, au Palais Royal, on recopiait. Alors, les nouvelles à la main, c'est comme les sites internet. Il y avait chose formidable. Ce que j'ai entendu à la Convention, à la Constituante, les débats, etc. Mais il y avait aussi la reine scélérate, les coucheries de Marie-Antoinette, etc. Il y avait tout ça à la fois, tout ça. Mais il y avait ce bouillonnement. Le droit de savoir devient un élément essentiel. Devient un élément essentiel parce que on est au cœur aussi, je vous ai dit, le n'importe qui, le droit, au fond, de sortir de la fixité. C'est quoi la vertu démocratique d'une information véritable, d'une information qui est un événement authentique? Ben, c'est qu'elle nous oblige à réfléchir. Elle nous oblige à bouger. On se retrouve tout d'un coup au café avec des gens qui ne pensaient pas comme nous, avec qui on s'engueulait, on n'arrivait plus à parler, et tout d'un coup qui sont obligés d'être confrontés à une information. Ah, j'aurais pas cru. Ah ben oui, vraiment. Non, Cahuzac, alors là, vraiment, j'aurais pas pensé. T'étais sûr, vraiment? Ah ben alors là, ça change. Et là, ça, et du coup, ça fait l'effet que vous connaissez, quel que soit le résultat des mesures. Ah ben oui, il n'y avait pas besoin de Cahuzac pour savoir que la lutte contre l'évasion fiscale est une lutte centrale, que c'est un crime, que c'est un dépouillement des nations, qu'il y a des avoirs financiers dans les paradis fiscaux supérieurs au PIB réunis des États-Unis et du Japon. Nous l'avions écrit bien avant l'affaire Cahuzac. Mais l'affaire Cahuzac est un événement qui oblige à se dire « Mais attendez, on ne peut pas rester ça. Il y a une vertu de l'événement. » Et qui fait bouger les lignes, et dont on doit s'emparer. Et donc, c'est l'idée du mouvement, c'est l'idée du déplacement. Parce que Comment on fait bouger des gens? Bien sûr, on leur amène des brochures, on leur dit « lisez notre programme, votez pour nous ». Mais d'accord, mais ça ne suffit pas. Les gens ont leurs préjugés, ont leur histoire. Comment ils se déplacent? Ils se déplacent par rapport à leur origine, à leur situation sociale, à leurs croyances, à leurs préjugés. Ils se déplacent parce qu'il y a la vitalité de cet espace public. C'est essentiel. La démocratie, le n'importe qui, le droit de savoir. Mais là, on arrive à une autre question. Et qui crée parfois, avec le monde militant, j'en fus, hein, et j'ai en même temps une conviction d'engagement dans le journalisme, qui crée parfois des malentendus, que je voudrais expliquer. Qu'est cette question de l'information? Nous avons tous des opinions. Nous avons tous des convictions. Le problème, c'est qu'il nous faut être capable d'accepter des informations qui bousculent nos convictions. Je cite souvent cette phrase de Nietzsche, hein, « Le pire ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. » Nous n'aimons pas voir ce qui nous dérange. Or, nous avons besoin de ça. Je viens d'une histoire personnelle, culturelle, que j'assume, que j'ai racontée, où on n'hésitait pas à publier des journaux en les intitulant « La vérité ». Parce qu'à l'époque, le mensonge dominait à gauche. Ah oui, on ne pouvait pas désespérer le monde ouvrier en disant qu'il y avait le goulag en Union soviétique. On ne pouvait pas désespérer le monde ouvrier en disant que les procès de Moscou s'étaient truqués. Ah oui. Et du coup, on était des vilains hitlero-trotskistes si on faisait ça. On était des alliés du nazisme. Et il fallait assumer ces vérités. Ça ne voulait pas dire qu'on passait du côté de la réaction. Ça voulait dire qu'il fallait assumer les vérités qui dérangeaient, qui bousculaient, qui posaient des questions à la gauche. Et c'est une question essentielle, qui est pour moi cette question de ce que la philosophe Hannah Arendt, qui est restée jusqu'au bout fidèle à Rosa Luxembourg, disait les vérités de fait. Il y a deux types de vérités dans notre vie personnelle, intellectuelle. Et tout. Il y a des vérités d'opinion. Le cerveau humain en produira toujours des millions, des milliards, etc. Il y en aura des raisonnables, des sérieuses, des progressistes, et il y en aura des effroyables, des irrationnels, des meurtrières. Il y a des vérités d'opinion. Le problème, c'est, et c'est l'enjeu d'un monde de la raison, d'un monde d'une haute démocratie, c'est de mettre au cœur de ce débat des vérités d'opinion les vérités de fait. Les vérités de fait. Sur le présent et sur le passé, lequel présent est plein de passé. Le passé lui-même est plein d'à présent, il y a une imbrication. Donc c'est vérité de fait. Accepter de mettre les vérités de fait au cœur du débat. Donc accepter de créer les conditions où surgissent des vérités qui vont nous obliger à penser contre nous-mêmes. C'est là que pèse, c'est ma bataille dans ma profession, c'est là que pour moi pèse une responsabilité politique essentielle pour le journalisme. Son rôle, son poids. Mais c'est là que pèse, de votre côté, une exigence vis-à-vis du journalisme. Mettre ces vérités de fait au cœur du débat d'opinion. C'est une question décisive, parce que c'est une question qui est au cœur de la vitalité du conflit démocratique. Et c'est plus que jamais vrai. Car quel est l'effet essentiel de la révolution numérique et qui fait qu'il y a un vieux monde, y compris dans les médias ou dans la vie politique, qui est inquiet par ça. Je l'ai dit, aucune technologie n'est libératrice en soi. Mais ce sont des accélérateurs formidables. Aussi, si on les démocratise dans leurs usages sociaux, qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est que désormais, vous avez reconquis la liberté d'expression. Jusqu'au numérique, pour exister dans l'espace public, fallait passer par un journaliste. Fallait qu'il publie ma tribune, fallait qu'il tende son micro, fallait qu'il m'invite à son émission, fallait qu'il diffuse mes opinions, mon point de vue, fallait qu'il fasse un reportage sur notre lutte. Mais c'est fini, ça. Désormais, vous n'avez plus besoin pour défendre vos causes et vos opinions des journalistes. Vous y avez accès vous-même. Vous ne voulez pas entendre notre grève. On fait sur les réseaux sociaux, on fait notre blog. On va tenir un copier-coller, on va le copier-coller sur le club de Mediapart. On va le faire circuler horizontalement, on va envoyer les liens. On va diffuser nos vidéos, on va diffuser nos informations. Nos, parce que derrière nos opinions, il y a des informations, nos causes. On va lancer nos alertes. Et du coup, pour les journalistes, j'estime que c'est la meilleure nouvelle qui puisse leur arriver. Ils sont descendus de l'estrade. Ils sont descendus de ce privilège qu'ils avaient injustement conquis en France et que l'on voit dans certaines figures du journalisme. Au-delà des personnes, la crispation de Jean-Michel Apathy sur Mediapart illustre ça. Derrière, il faut essayer toujours de penser les choses, hein, et d'essayer de leur donner du sens. C'est quoi la crispation de Jean-Michel Apathy? Vous ne le savez pas, mais vous savez, il faut savoir que Jean-Michel Apathy a commencé dans la profession à Politis. Donc c'est un long chemin quand même.
Bon,
c'est un long chemin. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc, c'est un chemin. Mais dans ce chemin, aujourd'hui, que dit cette crispation? Elle dit, voilà, il y a quelqu'un qui est dans cette bulle. Je commente. Je donne mon point de vue. Je donne mon opinion. Et c'est fini, ça. Son opinion, elle ne vaut pas plus que celle de n'importe qui. En revanche, il est embêté quand on lui met une information sous les yeux qui l'embête, qui le dérange. Voilà. Et ça, c'est la nouveauté. Parce que désormais, vous êtes là pour prolonger, pour critiquer, pour discuter, pour rectifier, pour alerter, pour alarmer. Et du coup, le journalisme, il est du coup sommé de créer de la valeur. C'est quoi la plus-value du journalisme? Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Quelle info utile démocratiquement? Et c'est une bataille des journalistes, mais c'est une bataille. Vous avez besoin de journalistes. Vous avez y compris besoin de journalistes qui publient des informations qui vous embêteront, qui provoqueront ce conflit démocratique, ce mouvement démocratique. C'est nécessaire. Et là, c'est la question. Ce journalisme étant remis à sa place, et ce sera ma conclusion, dans le délai, il me reste 10 minutes, dans le délai imparti, c'est la question de l'écosystème. Vous avez donc compris, j'ai brossé ce paysage volontairement, presque de manière un peu académique, mais parce que je pense qu'il faut penser, nous sommes dans cette accélération de la temporalité, du flux, de l'immédiateté, nous ne pensons plus ce qui nous arrive. Et il faut penser, le comprendre, avoir un point de vue au-dessus, pour agir dessus, et ne pas être simplement dans un moment où nous serions en train de subir ce qui nous arrive, et de comprendre que, par exemple, les révolutions arabes, dans leurs progrès et leurs regrets, mais les informations qui circulent sur Facebook, la circulation de ces informations, montrent que ça a à voir. Dans ce moment technologique, il y a un basculement. Oui, il y a du terrorisme qui a des causes sociales aussi. Eh bien, ils communiquent sur Twitter quand ils font une prise d'otage au Kenya. Et les peuples africains, aujourd'hui, avec ces machines, ils n'ont plus du tout le même rapport à nous. Avant, on venait avec nos médias de manière verticale. Maintenant, ils nous regardent. Ils nous voient autrement. Ils ont une forme d'espace public nouveau. Il se passe aussi des choses formidables de ce point de vue. Dans la révolution tunisienne, encore une fois, c'est pas Twitter ou Facebook qui fait la révolution tunisienne, mais l'information. Vous savez, par exemple, dans le Cablegate, il y avait cette dépêche révélée par Wikileaks de l'ambassade des États-Unis, marquée secrète, envoyée donc au département d'État. Et cette dépêche était titrée comme un article de journal. Tout ce qui est à toi est à moi. Cette dépêche de l'ambassade racontait à partir d'informations d'insiders, au cœur du pouvoir des Ben Ali Trabelsi, la prévarication. Tout ce qui est à toi est à moi, je prends. Voilà, montrer quelle était la réalité de ce pouvoir. Quand cette dépêche a été traduite en français et en arabe, et qu'elle a circulé, mais l'effet a été formidable. Qu'est-ce qu'on disait? On disait la jeunesse tunisienne, elle pense que un peu, voilà, elle pense qu'au plaisir, elle pense qu'au tourisme, à rien, quoi, voilà. Et puis tout d'un coup, en fait, non. Non. Puis ils voient ça, ils disent, mais attendez, la puissance des puissances, elle sait ce que nous savons. Oui, nous, on sait qu'ils sont corrompus, mais on pense qu'ils ont le pouvoir et que c'est vraiment difficile, ils ont la répression et tout, ils ont toutes les armes pour nous écraser. Ah bon, la puissance des puissances, qui s'est arrangée de ces dictatures au nom du péril islamiste, elle sait ça, elle aussi. Elle en sait autant que nous. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Je pense, et c'est vraiment un idéal, parfois déçu, je le reconnais, que l'information libère, que l'information est un levier de libération, qu'elle donne du courage, qu'elle donne envie de se battre. Et voilà l'enjeu, là, qu'on voit à ce moment-là, et qui fait que des peuples se sont levés. Ma conclusion, c'est cette question de l'écosystème démocratique. Parti de gauche, c'est cela. J'ai déjà été reçu, je crois, par la commission Média il y a quelques années. Parti de gauche a été invité à des réunions publiques qu'a fait Mediapart là-dessus. Je crois qu'il faut prendre la question en bloc. En clair, je pense que notre République a besoin d'une nouvelle loi fondamentale sur la liberté de l'information, de la même ampleur que ce que fut la loi de 1881. Il faut imaginer, et lire les débats de la loi de 1881 est formidable. Je vous rappelle que la République venait à peine de rentrer chez elle, puisqu'elle n'était pas vraiment République après la Commune de Paris, et elle siégeait encore à Versailles. Ce n'est qu'à la fin des années 70 qu'elle revient de Versailles à Paris. Et là, ça s'accélère, et il commence par la presse, l'éducation. C'est les deux premiers. Et sur la presse, c'est un débat formidable. La France qui pense toujours qu'elle est universelle à elle seule, mais en l'occurrence, elle n'était pas seule, elle était en dialogue avec la révolution parlementaire britannique et avec la révolution américaine sur ces questions, avait proclamé ces questions-là. Et puis, un siècle d'éclipse. Napoléon, c'est une dictature, il n'y a pas de liberté de la presse, il écrit lui-même les journaux. Vous allez à la Bastille, quand vous faites des manifestations, ayez un petit souvenir pour les 500, ils sont à peu près 500 dépouilles sous la colonne de la Révolution des Trois Glorieuses, de juillet 1830, ce sont des ouvriers, des artisans du Faubourg Saint-Antoine, pourquoi ils se sont soulevés ? Pour la liberté de la presse. Question démocratique, question sociale. C'est les ordonnances de Charles X qui supprimaient la liberté de la presse. Et ils ont donné leur vie pour la liberté de la presse. Qui sont dans cette crypte qu'on devrait ouvrir à visiter, parce que finalement il y a des monuments, des batailles qu'il faudrait, et pas seulement les monuments des vainqueurs, il faudrait montrer les monuments des vaincus. Mais bon, des vaincus momentanés, des vaincus glorieux, des vaincus victorieux, de ceux au nom duquel on se bat aujourd'hui. Et donc, cette éclipse dure un siècle. Et la France est en retard. Quand elle fait la loi de 1881, tout d'un coup, elle fait un bond. Elle a la loi démocratique la plus avancée du monde. Avec un pari qui aura des aspects discutables après. Article 1er, l'imprimerie et la librairie sont libres. Un siècle où même à gauche, même chez les Républicains, on disait « Oh là là, c'est embêtant, la presse, il va y avoir n'importe quoi ». C'est, je vous rappelle, je les ai là dans un autre manifeste de Mediapart, les discours de Victor Hugo sous la Deuxième République, où les Républicains, qui pensaient être les nouveaux sachants, les nouveaux oligarques, qui avaient réprimé les ouvriers, et ils ne voulaient pas trop d'une presse qu'on ne contrôle pas. Ils disaient, nous, on est les élus, on a une légitimité qui est la représentation, on est les élus. Et Victor Hugo leur dit, non, la démocratie, c'est deux choses. La souveraineté du peuple, c'est deux choses. D'un côté, il lit, d'un autre côté, il vote. À égalité. Pas du même ordre, mais une délibération permanente. Et en ce sens, la représentation, la délégation du pouvoir n'épuise pas la démocratie. Il y a cette délibération permanente qui se fait par la circulation de l'information. Je peux avoir voté et m'être trompé, parce qu'on m'a trompé. Eh bien, je dois comprendre que j'ai été trompé. Je dois avoir des notaires qui me disent « ils ont promis ça et ils font l'inverse ». Et je dois avoir ça. Et donc, à l'époque, c'est une bataille. Il y a de ce point de vue, au plan politique, un illibéralisme français. Une réticence à confier cette liberté à ce n'importe qui de la démocratie. Quand on dit l'imprimerie et la librairie sont libres, on dit, il n'y a plus rien. Pas d'autorisation préalable, pas de cautionnement, pas de censure. Vous faites ce que vous voulez. Alors certes, après, la marchandise va s'en saisir, c'est une autre affaire au niveau des entreprises de presse. Mais n'oubliez jamais que la première période de la Troisième République, jusqu'à la catastrophe de 1914, sera l'âge d'or de la presse française. Une presse qui créera de la valeur avec d'authentiques entreprises de presse qui seront des réussites économiques et qui seront une vitalité qui sauvera la République. Parce que c'est quoi la crise du boulangisme et de l'affaire Dreyfus ? Bien sûr qu'il y a la presse antisémite qui raconte n'importe quoi, mais il y a du coup une vitalité en face et qui reste avec le symbole de J'accuse. Mais cette vitalité en face fera que ça mobilisera. Et ça mobilisera, et la République évitera ce moment de confusion, de perdition qu'était le boulangisme. Et donc, nous avons cela. Et nous avons ça par les rouages du débat, de cette agora démocratique permanente. Il faut faire confiance à la liberté. Et donc nous avons besoin, je ne la donnerai pas, on avait fait dans l'appel de la colline, c'était 2008, Mediapart avait fait un appel qui disait un peu les points qu'on aimerait voir rassemblés, on aimerait voir affirmer ce droit de savoir qui n'est pas un droit des journalistes, avec un vrai droit d'accès à l'information, affirmer la protection du secret des sources et des lanceurs d'alerte, affirmer le combat et le refus des conflits d'intérêts dans l'appropriation privée des moyens des médias, affirmer une authentique indépendance des médias publics, affirmer un authentique droit des rédactions, et ainsi de suite. Et si on fait tout ça, si on change l'écosystème, on pourrait penser, par rapport à des questions que souvent les univers militants posent à juste titre, renoncer les droits des journalistes, les droits et les devoirs, rappeler notamment aux journalistes que leur loyauté, c'est à l'égard des citoyens, pas à l'égard du propriétaire et pas à l'égard du pouvoir public, ce qui est dans la charte de Munich des journalistes depuis 71. Leur loyauté, c'est à l'égard des citoyens. Renoncer les droits et devoirs des journalistes et énoncer aussi les droits et les devoirs des citoyens par rapport à l'information. Car ils sont désormais acteurs, ils produisent des informations, ils font partie de cet espace. Et ça va devenir un enjeu de bataille, car les poursuites commencent en diffamation contre des blogueurs qui n'ont pas la protection des journalistes et tout ça. C'est important de redéfinir tout ça. Mais je mets ça en dernier. Les questions de conseils de presse qui sont débattues. Parce qu'il faut d'abord créer ce nouvel écosystème. Je prends souvent une formule, je dis, Mediapart, souvent, et ça fait plaisir, les gens nous disent, vous êtes courageux, vous vous battez, tout ça, etc. Mais je dis, nous, oui, d'accord, mais on n'est que des petits poissons face à des gros requins dans une mer polluée. Est-ce que vous dites à des petits poissons qui sont face à des gros requins dans une mer polluée, « Ah, sois courageux, petit poisson !» Non, vous vous occupez de dépolluer la mer. Voilà, j'espère avoir donné l'envie de...
Bien, merci Edoui pour ce bel exposé, très passionnant, de belle ampleur. J'imagine qu'il va motiver de nombreuses questions dans la salle. Donc on va en prendre une première batterie à laquelle tu répondras et on prendra les suivantes après. Alors...
Bonsoir.
Ouais.
J'ai noté différentes choses. Déjà, merci beaucoup pour cette brillante démonstration. Néanmoins, j'avais quelques critiques. Alors, j'ai noté vite fait.
J'ai essayé de faire
court pour que tout le monde puisse parler. Vous avez parlé de l'espace public. Moi, je ne le vois pas beaucoup, l'espace public actuellement, notamment l'espace public non marchand. Alors, je précise un petit peu, où sont les radios libres aujourd'hui? Où sont les télé associatives? Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas davantage de chaînes comme Arte aujourd'hui? Moi, quand j'étais à l'école, j'ai fait un peu les théories de l'information et de la communication. Donc, j'avais un prof à l'époque qui me disait, Arte, c'est bien, si on veut davantage d'identité européenne, il faut davantage de chaînes comme Arte. Et aujourd'hui, le fait est qu'il n'existe toujours pas suffisamment d'espace public où on puisse discuter des choses du monde. Alors derrière, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais la place accordée à quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ne me semble pas suffisante dans l'espace public actuel. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième chose... qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Oui, mais vous-même aujourd'hui, Mediapart ou d'autres comme Arrêt sur Image vivent dans un espace qui est différent de celui dans lequel évoluent la plupart des journalistes dits mainstream. Ou pour employer un terme français, les journalistes les plus. Voilà, des médias de masse, voilà. Vous avez vous-même chez Mediapart des difficultés à vous faire entendre. Alors, comment penser justement l'information à l'âge du numérique, si même un journal comme Mediapart a les plus grandes difficultés du monde à se faire à être entendu. Voilà. Je vous laisse répondre.
Je réponds d'emblée ou on prend plusieurs, c'est comme tu peux faire. C'est une vraie question, mais je ne veux pas casser, peut-être qu'il faut. Voilà, parce que ça.
On va peut-être en prendre plusieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour prendre.
Il y a eu une allusion à la protection du journaliste et à la protection du blogueur. Donc évidemment, quand on a un blog, on se sent libre comme l'air. Et donc, j'aimerais que vous reveniez sur ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Et quelles sont aussi les limites dans les commentaires dans Mediapart? Est-ce qu'on est côté journaliste ou est-ce qu'on est côté blogueur? Donc j'ai eu des problèmes, Mediapart m'a censuré. Je m'appelle Pierre Magne, de temps en temps je suis censuré. Donc, en général, je l'admets tout à fait.
Bonsoir. Moi, ce que j'ai noté, c'est que vous présentez cette révolution avec un formidable optimisme et que j'aimerais bien partager. Et en fait, il me semble que quand vous évoquez à la fois le n'importe quoi et le n'importe qui, comment. J'ai du mal à préciser ce que je voudrais dire. Comment peut-on faire pour que des n'importe qui n'ont pas a priori l'information et qui la cherchent, trouvent une information de qualité, ne se perdent pas dans le flot immense que représente le numérique aujourd'hui?
Alors, je vais répondre à ces trois questions qui toutes sont importantes. Commencez pas, donc là, dans l'ordre, hein, par cette question de l'espace public. Qu'on soit bien d'accord, hein, l'espace public, c'est une notion qui va avec les Lumières, hein, elle est dans ce fameux texte du philosophe Kant, hein, sur la paix universelle. Et c'est comme ça qu'un philosophe allemand, Habermas, reprendra cette notion. C'est l'idée qu'il y a un espace public. Encore une fois, c'est l'idée que nous sommes encore peut-être à la préhistoire des âges démocratiques. C'est une histoire récente. Et en clair, l'élection de représentants n'épuise pas la démocratie. Et après, quelles seront les formes? Il peut y en avoir diverses. Hein. Il peut y avoir des inventions. Je prends juste un exemple pour qu'on comprenne ça. Ce que je veux dire. On a discuté en France, par exemple, de comment on gère les questions de mémoire. Et notamment, par exemple, comment on gère, vous savez, les grands procès mémoriels qui ont été faits, Papon, le nazisme, Barbie, etc. Un pays qui inventait la démocratie récemment a inventé autre chose. C'est l'Afrique du Sud. Ils avaient l'apartheid, qui était une création moderne, hein, qui s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale. Ils se trouvaient quand même avec le poids de ce crime. Ils font, ils disent pas, tiens, on va passer tous les vaincus, les gens de l'apartheid, au procès, on va faire vérité et réconciliation, l'Ubuntu. Donc on va faire un truc qui dit, ça n'efface pas les crimes, mais on fait un lieu public où ceux qui ont été victimes de crimes, y compris crimes des vainqueurs, qui avaient raison, c'est-à-dire les combattants de l'ANC qui ont combattu et qui ont parfois tué des gens, et puis parfois quand on tue des gens, on tue sous des soupçons dans la guérilla et tout, et parfois on tue un bout de leur famille, ça peut arriver. Je n'idéalise pas. Donc voilà, les gens venaient dire ce qu'ils avaient vécu, subi. Et des gens disaient, ok, j'accepte de m'expliquer. J'accepte de rendre compte de ce qui s'est passé. Et après, il y avait aussi la justice qui pouvait travailler. Ça n'incluait pas. C'est quelque chose de très spécial qui a été fait là, qui est par rapport à une invention. Hein, je dis ça parce que, pareillement, je crois que la démocratie peut inventer de nouvelles formes. Hein, et qu'aujourd'hui, l'idée de l'espace public, c'est de dire, Sortonde, quand même, quel a été le choc après l'élection de François Hollande pour moi? Je l'ai dit tout de suite, c'est ce texte Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry qui dit circuler, silence dans les rangs. Qui dit non seulement on élit des représentants, mais ces représentants n'ont pas le droit de débattre en conflit. Ils n'ont pas le droit d'inventer. Et hop, la majorité présidentielle s'impose de manière verticale. Alors que pour moi, tout, même quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec un pouvoir, je pense qu'une fois qu'on les a élus, c'est pas eux seuls qui sont en charge pour 5 ans, c'est nous. Et qu'on va inventer ensemble, et qu'il y a de nouvelles situations qui se présentent, et qu'on a besoin de délibération. Et vous voyez bien comment s'infiltre l'idée de non-délibération. Au point que ce sont de plus anciennes démocraties que nous, qui je n'idéalise pas, ne sont pas parfaites, mais qui n'ont pas notre monarchie républicaine, qui nous ont rappelé là que quand on décide la guerre, on doit débattre. Les communes et le Congrès américain. 2 heures avant que Hollande appuie sur le bouton, non pas nucléaire, mais pas oublier qu'ils ont le bouton nucléaire, c'est-à-dire que celui des frappes sur la Syrie, c'est le coup de fil d'Obama qui retient sa main. Et qui lui dit, écoute, j'ai réfléchi, j'ai fait le tour de la Maison-Blanche, de 3 pâtés de maison, j'ai pas l'ONU, j'ai pas l'OTAN, j'ai pas mon vieil allié britannique, donc je demande au Congrès. Mais et il n'y avait dans les conseillers de l'Élysée, le président, sa majorité, personne ne se dit, mais attends, on peut pas, une guerre, on discute. Je dis ça parce que, puisqu'on débat beaucoup de ce qui menace notre démocratie, il n'y a pas besoin de changer ce système institutionnel pour que les catastrophes arrivent. Parce que si on pousse là jusqu'au bout, ça veut dire, bah oui, un type, il peut, ou une femme, hein, peut déclencher l'arme nucléaire en en débattant avec les alliés, mais pas avec son peuple. Donc, c'est une question très importante, la délibération démocratique, faire confiance à la délibération démocratique. Et la délibération, ça prend du temps. Et en effet, dans la délibération, il y a des gens qui disent des bêtises. Et on doit argumenter, discuter, trouver des procédures, inventer des procédures. Donc, par rapport à ça, votre question, c'est de dire, mais cet espace public, il est saisi par la marchandise, il est profondément privatisé. Alors là, je voudrais poser une question que je n'ai pas développée, qui pour moi est très importante, qui est la question de la gratuité par rapport à l'univers du numérique. Pour moi, il y a un mirage qui est celui de la gratuité marchande, c'est-à-dire la gratuité publicitaire. Et cette gratuité publicitaire, elle est destructrice de la valeur de l'information. Moi, je défends une gratuité démocratique, gratuité de l'échange, du partage, de la relation, de la discussion. La gratuité marchande, celle qui a créé l'illusion qui est comme une bulle, l'information est gratuite, payée par la pub. Résultat des courses, on cherche l'audience, la foule, la masse, le plus grand nombre. Résultat des courses, l'information est gagnée par quoi ? Par le divertissement. Le divertissement qui a un allié, le débat d'opinion. Ah, on fait un talk show, blablabla, blablabla, monsieur Barbier, vous pensez quoi ? Monsieur Plenel, vous pensez quoi ? Parce que bien sûr, on est obligé d'y aller. Parfois, blablabla, le débat d'opinion. Moi, c'est pour ça que je cite Mediapart 4 fois ou 20 fois et qu'on me caricature. Mais je cite pour dire, attendez, il y avait des infos là. Il y avait des infos, je ne suis pas là pour dire mon opinion. Je suis là, oui, je suis un porte-drapeau, j'amène une info. Je le fais volontairement pour casser ça. Mais cette idée de la gratuité publicitaire, pour la presse, pour l'information, elle est fatale. Car cette logique du grand nombre, de la masse, de la foule, c'est une logique, je veux le plus grand nombre de clics pour avoir la publicité, donc je ne dérange pas, donc je suis dans le flux, donc je suis dans le conformisme, donc je suis dans le people, donc je suis dans l'anecdotique, et je ne prends pas le temps de réfléchir, je suis dans les formats courts, etc. Mediapart, on l'a construit pour dire le contraire. On se pose, il y a des éditions, il y a des articles longs, on réfléchit, et Internet n'est pas condamné, la technique. Quand on a créé Mediapart, les gens disaient, partout dans le monde, le net suppose gratuité, format court, flux, immédiateté. On a créé l'inverse. Donc, c'est très important cette bataille. Pourquoi ? Parce que derrière le mot espace public, il y a la question du public. Construire des publics. Vous avez des visages ici. Nous discutons, voilà, nous savons qui nous sommes. La foule, c'est l'anonymat. Ce n'est pas une conversation démocratique. Tout le monde regarde dans la même direction et les foules peuvent être méchantes, aveugles. Un public, c'est créer des conversations démocratiques. Et c'est pour ça que le pluralisme est important. Et donc, le public, c'est « je suis là, je suis dans cet endroit ». Et quand nous avons créé Mediapart, nous avons posé, au fond, deux questions. La question de la valeur de l'information, je ne dis pas du payant, la valeur de l'information. Oui, l'information a une valeur. Et pour moi, vous l'avez compris, cette valeur, elle est d'abord démocratique. Et derrière cette valeur, il y a du travail. Le travail de salariés, de travailleurs de l'information. Donc ça a un prix. Avec le numérique, il est moins cher. Il est beaucoup moins cher. Mais ça a un prix. Et ce prix, c'est aussi le prix de notre relation. Car ce prix vous donne accès au club de Mediapart. Où là, vous participez. Mais c'est aussi le prix de la fin de l'anonymat. Car en vous abonnant à Mediapart, vous pouvez choisir un pseudonyme. Et le pseudonyme est protecteur par rapport à des métiers. Mais en même temps, nous savons comment... Vous avez un mail, on peut vous contacter. Vous n'êtes pas anonyme. Donc nous sommes dans un univers où s'est créé autre chose. Mais quand je dis que c'est une gratuité démocratique, tout abonné de Mediapart peut offrir un article de Mediapart à autant d'amis qu'il veut. Deuxièmement, tout abonné de Mediapart peut partager ses identifiants avec autant de personnes qu'il veut. Et on ne fait pas la chasse. Avec 5 membres de sa famille et avec 20 amis s'il veut. C'est son problème. C'est pour ça que derrière les 80 000 abonnés de Mediapart, il y a beaucoup plus de monde. Bon. Et puis, le club de Mediapart est en accès libre. Tout le monde peut lire tous les contenus. C'est une gratuité démocratique. C'est important, cette idée, hein, de la circulation comme ça et de la valeur. Du coup, ça m'amène à la bataille. Je ne l'ai pas mis dans les points, mais c'est dans notre manifeste. Bien sûr, vous avez raison. Je dis, c'est une bataille. Nous avons perdu des batailles. Cette crise est l'occasion d'une régression. Et quelles batailles ont été perdues? Ben oui, l'indépendance de Libération a été perdue. L'indépendance du monde au terme capitalistique a été perdue. J'ai perdu des batailles. Elles étaient confuses, elles m'ont fait réfléchir, elles étaient incompréhensibles, elles avaient l'air d'être des batailles opaques, etc. Bien sûr. Donc, nous avons une bataille pour recréer cela. Je réclame parmi ce qu'on revendique, et nous allons essayer de le construire à Mediapart, qui était un vieux projet de société de presse à but non lucratif. C'est très intéressant. En France, nous n'avons pas un vrai statut de fondation. La fondation suppose un lien avec l'État. Et il n'y a pas cette idée des non-profit, comme ça existe dans d'autres cultures. Et cette idée tout simple de créer une structure, moi je veux créer Mediapart, pas, nous les fondateurs de Mediapart, on ne veut pas s'enrichir, on ne veut pas vendre Mediapart. On veut arriver à construire autour de Mediapart une structure de contrôle de Mediapart qui soit abondée par ce que nous avons apporté, hein, tous, puisqu'on sait, moi je me suis endetté pour, etc., on a créé ça. Et ce soit cette structure qui contrôle Mediapart. Hein, et qui contrôle Mediapart avec, en clair, sous le contrôle de ceux qui y travaillent. Plutôt que de faire les aides directes à la presse, parce que c'est nous qui avons mené la bataille sur la transparence des aides directes, qui est un scandale. Vous avez Dassault, vous avez Niel, vous avez Lagardère, vous avez Rothschild et tout. Dernier rapport de la Cour des comptes, bataille. Annuellement. Je parle aide directe. 19 millions pour Le Monde par an. 18 millions pour Le Figaro par an. Près de 10 millions pour Libération par an. Mais j'en passe et des autres. Il y a Télé 7 jours, il y a Télé Z. Voilà. Bon, comment ça? Et d'un côté ça, et de l'autre côté des mécènes. C'est un des pièges pour les équipes de journalistes. D'un côté, j'ai le mécène, le milliardaire. Et de l'autre côté, j'ai l'aide de l'État. Du coup, je ne me bats plus pour créer la valeur, pour défendre la valeur de mon métier. Et donc, nous avons défendu cette idée que ce qui est vertueux, c'est les aides indirectes. Moi, je suis pour les aides indirectes. C'est pour ça que nous menons la bataille, y compris dire l'information, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Ben, pourquoi la TV... C'est pour ça qu'il y a eu la TVA super réduite. Mais pourquoi la TVA ne serait pas à zéro sur l'information? Parce que ce n'est pas une marchandise comme les autres. Mais en supprimant les aides directes. En supprimant les aides directes. Parce que là, l'aide indirecte, c'est une aide au public, au lecteur. Donc c'est un vrai enjeu, y compris de réflexion sur l'écosystème de l'information, qui permettrait de poser des questions. Car quelle est soit, nous ne touchons pas d'aide publique et nous menons bataille contre le fonds Google qui a été créé. Parce que le fonds Google... Il y avait l'enjeu de son imposition, puisque Google, comme vous savez, paye très peu d'impôts en France. Mais finalement, au lieu de vraiment ramener cet argent en France, ils ont fait un deal en disant bah, « tu nous donnes 60 millions sur 3 ans à la vieille presse ». Du coup, grâce à, avec l'Élysée qui soutient. Et du coup, on vous, en clair, ils ont fait chanter Google, en clair, et lui ont fait sortir ses 60 millions. J'ai expliqué ça à Google. J'ai dit « vous qui êtes des libéraux au sens anglo-saxon du terme, hein, ça veut dire plutôt de gauche ». Et, mais comment vous avez accepté un accord avec l'oligarchie de la vieille presse française pour perpétuer ce système opaque, hein, de clientélisme, etc. Donc, le vrai problème, par exemple, on pourrait décider des taxations, on pourrait décider d'autres modes par rapport à ces grands géants du web et abonder et dire que cet argent peut aller à autre chose, hein, autrement. Donc, c'est très important de repenser l'ensemble de l'écosystème. Et peut-être que je ne suis pas assez imaginatif. Les gens de la Quadrature du Net, d'autres, ont beaucoup d'autres imaginations sur ce que voudrait dire la neutralité du numérique, quelqu'un comme Laurent Chemla et d'autres. Mais je pense qu'il y a à repenser tout cela comme ça. Et permettre, par la loi, en clair, il faudrait des incitations économiques pour dire aux salariés de l'information, nous vous donnons des appuis pour que vous soyez maître chez vous. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. Enfin, la dernière question sur l'illusion. Bien sûr que Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon peut se dire « je ne suis pas assez ». Mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit à la fin, je pense qu'il faut sortir de ça. On ne comprend rien sinon au succès de Mediapart. Et c'est incompréhensible ce qui se passe. Bien sûr, on peut se dire « ah, ils sont très bons, ils ont sorti des scoops et tout ». Mais moi, je faisais ça avant, pendant 25 ans. Qu'est-ce que c'est Mediapart ? Sans le numérique, il n'y a pas ce succès-là. Parce qu'on est sorti, on est comme une sorte de contre-société. C'est une expression qu'emploie Rosan Vallon qui dit la contre-démocratie. Et c'est ça qui nous a donné un accélérateur. Nous, on ne joue que par les mails et par les réseaux sociaux. Et on s'est retrouvé dans une stratégie du faible au fort à faire l'agenda. Sous Sarkozy, plutôt deux fois qu'une, et y compris sous ce pouvoir-là. Et donc, là, il y a quelque chose qu'il faut se dire. Et moi, je le dis souvent à des militants, je dis, mais pourquoi vous ne faites pas des copier-coller de votre blog sur Mediapart? Pourquoi vous n'utilisez pas cet espace et vous tenez vos blogs et vous faites ceci? Pourquoi? Voilà, vous faites... Utilisez tous ces espaces. Utilisez tous ces espaces. Et je crois vraiment que, bien sûr, que la reconnaissance par les grands médias classiques, on la recherche, etc., mais... Sincèrement, le succès de Mediapart, y compris sa notoriété, qui fait que son avenir est encore devant lui, montre qu'il y a d'autres biais. Comme le succès de Wikileaks autrement, hein, comme etc. Là, je parle y compris le succès en tant que entreprise de médias. Donc je crois qu'il faut réfléchir, il faut penser les choses comme ça. Il faut penser les choses comme ça. Et il faut doubler. Il faut inventer, encore une fois, je redis cette expression, des stratégies du faible au fort. Il faut arrêter de se cogner sur les murs comme ça. Je crois vraiment qu'on est dans ce moment-là. Ce qui m'amène, du coup, finalement, je ferai dans cet ordre-là, à répondre sur l'optimisme. Je ne suis pas béat et naïf. Je dirais, bon, vous connaissez la vieille formule, hein, optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence. C'était la définition du communisme par Gramsci.
Bon. Mais communisme comme humanisme, hein, c'était il est dans ses cahiers de prison. Mais bon, moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, j'essaye de dire, on est dans un moment où tout peut nous désespérer, où tout peut nous inviter à renoncer, où tout est fait pour. D'ailleurs, quand on a écrit ce premier manifeste, hein, de Mediapart, c'était au tout début. J'ai dit tout est fait pour désespérer le journalisme actuellement, etc. Bon, et on peut le dire dans plein de domaines. Bon, donc je pense que voilà, il y a une vertu peut-être ou de l'exemple ou de voilà, on a tous besoin de gens qui nous donnent envie d'y aller, de se battre. Et quand on dit se battre, ben on est évidemment jamais sûr du résultat. Mais c'est en faisant le chemin qu'on invente le chemin. C'est en cheminant qu'on invente le chemin. Et celui qui ne se bat pas, bah, il ne gagnera jamais. Donc voilà, moi je fais cette réponse-là. Alors, dans votre question, il y avait autre chose. Dire, mais le n'importe qui et le n'importe quoi. Alors, pour vous faire comprendre, j'ai une image. Le numérique, c'est une forêt vierge. Il y a des lianes, toutes les nanosecondes qui poussent. Ça pousse dans tous les sens. C'est une forêt vierge avec des animaux bizarres, avec des endroits où ça pourrit, avec des endroits lumineux, avec des belles fleurs et des belles plantes. C'est une forêt vierge. Alors, face à une forêt vierge, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, je cherche à tout contrôler, à tout prendre pour la logique marchande, les minerais, le bois, etc. Donc je fais des autoroutes, je mets des barbelés, je construis ça, je m'approprie de manière privative ça, le fournisseur d'accès contrôle qui a le droit de dire quoi, etc. Hein, je privatise tout ça. Et je détruis l'écosystème de la forêt vierge. Soit je dis, l'écosystème, il faut que je le respecte. Mais bien sûr, je sais que la forêt vierge, on peut s'égarer, on peut se perdre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des clairières. Et je dis, moi, par exemple, Mediapart, c'est une clairière. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est une clairière. Alors c'est quoi une clairière? D'abord, c'est un endroit où il n'y a pas de plafond végétal. Donc je peux voir si c'est le jour ou la nuit. Je ne suis pas égaré, je suis... C'est très important ce que je dis. Regardez tous les sites d'information de la vieille presse. Je vais vous le dire autrement. Passez une semaine dans un refuge en montagne. Dénumérisez-vous, il faut le faire hein, toujours une fois par an, dénumérisez-vous, coupez-vous de toute machine, puis vous redescendez au bout d'une semaine. Et avant, vous n'achetez pas de journaux, vous vous branchez sur un ordinateur. Et vous allez sur le site du Monde, sur le site de Libération, sur le site de tout le monde. Et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Ben, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas de temporalité. C'est pour ça que dès le début à Mediapart, j'ai dit, il y a 3 éditions par jour, et en bas, on trouve la une des jours de la semaine précédente. On peut revisiter. La démocratie, c'est une temporalité. Le présent, il est lié à hier, etc. Bon, c'est très important, ça. C'est ce que je veux dire par le plafond végétal, ben, c'est qu'il n'y a plus de temps. Ben, il y a une temporalité qui me permet d'agir. Et tout. Donc, la clairière, je sais, il fait nuit, il fait jour, le matin. Deuxièmement, dans la clairière, je peux me poser. Il y a des bancs, je discute. Je prends le temps de réfléchir. Troisièmement, dans la clairière, j'ai une revue du web qui me dit, là, ce chemin, vous pouvez l'emprunter, là. Intéressant, là. Allez voir par là, c'est solide. Puis il y a un autre qui me dit, attendez, là, c'est pourri, hein. La liane, elle va vous faire tomber. C'est-à-dire qu'on me donne des instruments. On me dit, on me donne une hiérarchie. On me donne des priorités. On me donne un agenda. Et puis, il y a des forums qui se créent, il y a des discussions. Puis je découvre des choses. Et puis après... Je commence à m'habituer, du coup, je m'aventure un peu plus. Parce qu'encore une fois, le numérique, c'est l'univers du lien. Par exemple, sur la question de la socialisation, nous sommes une population, on doit assumer ça, qui à la fois a une vitalité démographique, mais qui aussi vit plus longtemps. Qui vit plus longtemps et qui vit plus longtemps en meilleure santé. Donc qui est plus active. Le numérique est une arme de socialisation. Je peux lire sans me déplacer. Je peux commander des livres, je peux converser avec mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui sont au bout du monde. Et je pense que ça, c'est aussi une bataille, qu'il ne faut pas prendre cette machine comme... C'est une machine, on a tous dans nos entourages des personnes qui approchent de 90 ans et qui se sont converties au numérique parfois. Et qui sont converties et qui, du coup, ils retrouvent une vitalité. Parce qu'ils vont chercher des choses, ils vont faire une recherche généalogique, ils vont rechercher des documents, etc. Et du coup, ils apprennent à se promener dans la forêt vierge. Je crois, et c'est pour ça que je dis que ça a quelque chose de la même ampleur que l'imprimerie. Dans ce que ça peut avoir. Vous savez que, par exemple, le Collège de France, qui est un des lieux de savoir les plus estimables, hein, puisque où était Bourdieu, et on est élu par ses pairs. Aujourd'hui, vous pouvez... La salle de cours au Collège de France, on peut mettre 100 personnes. Aujourd'hui, elles sont toutes sur Internet. Vous pouvez aller écouter les leçons au Collège de France. Vous pouvez... C'est une université populaire. C'est important ce que je viens de dire parce que l'invention de la presse démocratique fin 19e, elle est contemporaine de l'université populaire. Ce que nous faisons ce soir, après le travail, on allait à l'université populaire. Et les mêmes gens qui parlaient à l'université populaire étaient souvent des gens qui étaient acteurs de cette nouvelle presse. Les Péguy, les Jaurès, les autres, etc. Et donc je crois à cette idée-là. Donc je sais comme vous hein, que des catastrophes sont possibles et je les vois. En Grèce, ici même et ailleurs. Mais je pense qu'il y a là des instruments qui, hein, on est, voilà, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Donc je pense qu'il y a aussi ceux qui sauvent. Enfin, dernier point sur la responsabilité du blogueur et Mediapart. C'est une vraie question et qui fait l'objet de débats avec les lecteurs de Mediapart et de débats entre nous. Et de débats face à la justice. Parce que, y compris dans la réglementation actuelle, il y a eu une régression. Moi, ma position est simple. Moi, je suis responsable, en tant que directeur de publication, des contenus du journal. Et adossé au journal, j'offre une plateforme où je dis au lecteur, vous êtes responsable du contenu. C'est votre contenu. C'est vous qui en êtes responsable. Ou autrement, je rentre dans la marchandise dont on parle. Tous les sites de la grande presse sont en modération a priori. Moi, la modération est a posteriori. Je vais y revenir. Et vous savez comment se fait cette modération ? Par une société qui est venue nous voir, dont l'essentiel des personnels sont au Maroc. Et c'est eux qui modèrent. Voilà. Et c'est une société privée qui modère aussi bien les chats de certaines entreprises que le site du Monde, que le site, etc. Alors, moi, donc ce n'est pas les journalistes. Donc moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer, etc. Donc, moi, c'est un univers de libre parole. Il y a une charte. En s'abonnant, on respecte. Et on est là. Après, il y a une alerte. Chaque abonné, chaque lecteur peut alerter, y compris les non-abonnés. Et là, bon, en fonction de la charte, bon, on décide d'intervenir ou non. Voilà. C'est forcément subjectif. Mais nous avons la loyauté d'intervenir, y compris avec des mails que reçoivent les abonnés. Tiens, du coup, leur commentaire ne tombe pas, n'est pas, comment dire, n'est pas, ne disparaît pas tout seul. Ils sont prévenus. Nous avons fait, dans toute cette réflexion, parce que nous voulons faire ça avec, comment dire, et ça rejoint l'idée de comment, du n'importe qui, on arrive à ce que ce ne soit pas n'importe quoi. Nous avons fait une innovation qui crée une polémique. Et c'est intéressant, parce que tout ça, c'est comment on invente. C'est dit, bon, il y a parfois, sur les fils, vous connaissez, on parle des trolls, il y a parfois des gens, ils suivent leurs obsessions, et ils cassent un fil de discussion. Au lieu de se retrouver avec une discussion, ça argumente, sa réponse, etc. Tout d'un coup, il y a des gens qui cassent, qui viennent, etc. Pas forcément qui insultent, mais qui viennent avec leur... Voilà. Donc on a mis un instrument qui est important, qui s'appelle dépublier. Alors, dépublier, veut dire... déconseiller, pardon, parce que ça veut dire une idée, c'est important, ça veut dire qu'il n'est pas dépublié, c'est déconseillé, ça veut dire qu'il est replié, hein, il est replié. Donc, Jean, alors il y a recommandé et déconseillé. Bon, l'idée était celle-là, c'est de dire, voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, évidemment, on en revient à la dialectique opinion-information, parfois, les sympathisants du Front de Gauche ne sont pas les derniers, quand il y a des commentaires qui ne leur plaisent pas politiquement, hop, déconseiller. Et donc, évidemment, les déconseillers s'accumulent, et il y a moins de recommandés, parce que, genre, il faut être très enthousiaste pour recommander, et du coup, les points de vue qui sont là, pof, voilà, problème. Voilà, on essaye de gérer ça. Non, mais, il n'y a pas que...
Ça s'est amélioré.
Ça, je pense aussi. On a tenu bon, parce que je pense que chacun commence à comprendre ce que c'est, et qu'en plus, le commentaire, il ne disparaît pas. Seulement, il est replié et que chacun peut aller le voir. Bon. Voilà. Mais le vrai problème que j'ai, c'est plutôt le statut juridique. Parce que le statut juridique a évolué. Et aujourd'hui, les dernières décisions disent que je suis responsable, comme directeur de la publication, de tout ce qui se publie sur le club. Et je ne peux pas. De tout ce qui se publie. De tout ce que font les abonnés. De club et donc de toute contribution des abonnés. Du coup... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et nous prévenons toujours, que quand quelqu'un proteste dans les formes, et j'exige qu'il y ait des formes, en disant je vais le poursuivre et tout, etc., je préviens l'abonné, je lui dis je vais dépublier. Parce que si je maintiens la publication, je deviens co-auteur. Ça veut dire que j'ai vérifié tout ce que vous avez publié, ça veut dire que je l'assume, et qu'à la limite, on peut ne pas vous poursuivre, mais me poursuivre moi tout seul. Et donc, c'est un débat, et moi, j'aimerais, en clair, faire bouger la législation pour dire, voilà, les gens sont responsables, y compris, voilà, ils assument, et c'est pour ça que je parlais des droits et des devoirs des citoyens. Quand vous me disiez, vous les aidez, ben oui, on n'insulte pas, oui, la question de l'intérêt public est importante, ça veut dire qu'on ne fait pas allusion à la vie privée, et qu'il y a une légitimité d'argumentation, etc. Voilà. Mais j'ai eu un problème récemment, où une entreprise sur quelqu'un qui bloguait est intervenu avec son armada d'avocats en disant je veux la dépublication, enfin je veux, etc. Moi j'ai dit j'ai pas fait l'enquête, je peux pas faire, donc n'a dit publier. Or, la personne qui bloguait sur Mediapart a gagné. Elle a gagné le procès qu'ils lui ont fait en diffamation. Donc, ça, c'est tout le problème. Et donc, on est dans un chantier. Et on va faire, on a comme idée, hein, pour les 6 ans de Mediapart, je voudrais qu'on fasse, je ne veux pas du tout concurrencer, ce ne sera pas la même période, ce sera en avril, donc ce sera concurrence, ce ne sera pas la fête de l'humain. On va faire une fête de Mediapart, mais pas une fête privée, une fête avec des forums et des débats et tout. Et je pense qu'on va avoir un atelier là-dessus. Mais on est un laboratoire, y compris là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes le journal le plus participatif de toute la presse. Et quand je dis aux abonnés, bah c'est votre responsabilité, c'est vrai. C'est votre responsabilité parce que c'est un lieu unique, hein, de liberté de parole. Bon, voilà.